Vous allez bien?
Ça va?
Alors, est-ce que vous connaissez l'échelle de Scoville? Normalement, il y a des amateurs de piment dans la salle, donc je devrais entendre un oui unanime. L'échelle de Scoville, c'est une échelle qui a été inventée par le pharmacologue Wilbur Scoville, qui s'est intéressé en 1912 au piment. Voilà, c'est une échelle de mesure de l'intensité et de la chaleur du piment. Ok. Pourquoi vous parlez de piment aujourd'hui? Parce que ce matin, nous allons faire une analogie assez intéressante, je trouve, entre la foi et les piments. Alors, où est-ce que vous vous situez ce matin sur ce nouveau baromètre de la foi que je vous propose? Est-ce que vous êtes ce matin dans une situation où vous avez plutôt une foi piment de Cayenne? Chez moi, le piment le plus fort, ça s'appelle le piment oiseau. Il est tout en haut, et comme son nom l'indique, à La Réunion, on dit qu'il donne des ailes. Vous voyez un petit peu l'intensité de celui-ci. Ou est-ce que vous êtes plutôt foie paprika ce matin? Ou alors, même pire, foie poivron vert? La dernière fois que je suis venu ici, je vous ai présenté notamment l'appel d'un personnage de la Bible que tout le monde connaît, le père de la foi, à savoir Abraham. Et rappelez-vous, quand nous avons évoqué son appel, il avait justement une foi ardente, explosive, une foi sans peur et sans reproche, une foi qui nous pousse justement à aller jusqu'au bout sans rechigner. Ça va être malheureusement une autre histoire aujourd'hui, parce qu'on va le voir que sa foi va perdre en intensité. Et vous allez voir que ce texte que nous allons parcourir, il est très riche en enseignements pour nous, avec trois questions que je vous propose ici de suivre, de parcourir. La première, comment peut-on passer d'une foi explosive, ardente, à une foi qui laisse place au doute et à la peur, et on va même voir à l'anxiété? Dans quel piège peut-on tomber quand justement nous sommes dans cette situation-là? Et enfin, comment Dieu, dans sa grâce, peut justement nous ramener, nous restaurer dans sa maison? Alors, je vous propose de parcourir du coup le texte. Il se trouve dans Genèse 12, et on va commencer à partir du verset 8. C'est parti.
Puis il leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Il établit son campement entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il y érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. Ensuite, Abraham repartit vers le sud. D'étape en étape, il gagna le Négev. Une famine survint dans le pays. Alors Abraham se rendit en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Sarah et sa femme, « Écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, « C'est sa femme !» Ils me tueront et te laisseront en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. »
Alors, fin. Peur et foi font rarement bon ménage et ce passage nous le montre. Après son appel, Abraham arrive à Béthel, qui veut dire littéralement « maison de Dieu ». Il y érige un autel pour celui qu'il a appelé et il lui adresse des prières. Mais il quitte précipitamment cette maison de Dieu pour rejoindre le désert de Négev. Il s'éloigne du lieu privilégié de Béthel. Et bim, la famine survient. Une famine causée probablement par la sécheresse du lieu, mais aussi, rappelez-vous, parce qu'il avait ramené pas mal de choses du pays qu'il avait quitté précédemment. La famine en France, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas vécu, et heureusement. La dernière date du 19e siècle, et si vous voulez voir des gens souffrir de la faim, Malheureusement, il faut aller soit dans des contrées lointaines, ou alors vous regardez les derniers épisodes de Koh-Lanta, hein, et là vous allez voir à quel point la faim peut justement vous amener dans une situation de détresse morale, de détresse psychologique. Et c'est dans cette situation qu'Abraham est justement, quand il est justement dans ce désert. Chez nous, ça peut être aussi plus souvent ça, la famine, c'est-à-dire le frigo vide. Et quand on a des bouches à nourrir, effectivement, la peur peut nous gagner. La peur n'est jamais une bonne alliée de la foi. Alors, je parle ici de la peur de manquer, de la peur du lendemain. C'est la première épreuve d'Abraham. Il ne s'attendait pas à ça. Tout quitter pour un pays où il n'y a rien. Alors, effectivement, c'est un petit peu décalé vers le sud, hein, mais tout ça pour ça. Il aurait pu croire que son obéissance allait être suivie immédiatement d'un tapis rouge et d'incroyables bénédictions. D'oasis en plein désert. Mais non, au lieu de bénédictions, Abraham rencontre des difficultés. Les vents lui sont contraires. Que peut-on en déduire pour nous ? Alors, premièrement, il faut se méfier des apparences. On peut parfois penser que quand une difficulté arrive, c'est le signe de la désapprobation de Dieu. On se dit que si l'on obéit à Dieu, si on répond à son appel, si on fait ce que Dieu attend de nous, on ira de victoire en victoire. Mais quand ce n'est pas ce qui arrive, quand au contraire ce sont des difficultés qui se profilent à l'horizon, on est décontenancé. On doute de notre appel et on redoute le pire. Les vents contraires que l'on peut connaître ne veulent pas dire que Dieu n'est pas avec nous ou qu'il est contre nous. Jésus n'a pas dit à ses disciples, vous aurez des facilités, easy peasy. Non. Jean 16, verset 33, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. On est loin de l'évangile de la prospérité et il faut donc qu'on fasse attention au triomphalisme. Quand les vents sont défavorables, comment fait-on pour avancer ? On retire les voiles et on sort les rames. C'est le principe de la galère. C'est plus fatigant, effectivement. Mais il faut parfois cela pour garder le cap quand les vents sont tempétueux. Dieu permet des épreuves pour entraîner notre foi, pour la rendre plus constante dans l'effort, pour l'affûter et ainsi la rendre plus résiliente quand il faut affronter d'autres déserts ou d'autres tempêtes. Malheureusement pour Abraham, l'intensité de sa foi décroît à mesure que sa peur monte. Comme on peut le schématiser ici avec cette courbe, ces deux courbes, plus notre foi est intense, plus elle prend le pas sur nos peurs et nos inquiétudes. En quelque sorte, la peur est la peur de la foi. Mais ce n'est pas le cas ici pour Abraham. Il ne parle plus à Dieu, il ne se tourne pas vers lui pour rechercher sa direction, et au lieu de sortir les rames pour garder le cap de la terre promise, il change de cap. Il laisse donc la peur du lendemain l'envahir et conduire sa réflexion. Et il fait ce que la logique humaine nous pousse toujours à faire, c'est-à-dire trouver vite, par nos propres moyens, des solutions aux problèmes urgents qui se posent à nous. Il va donc descendre en Égypte, pays qui fait ici sa première apparition dans la Bible. L'équation est simple. Pas de sécheresse en Égypte. Voilà un fleuve irrigué par voilà un pays irrigué par un fleuve puissant, le Nil. En plus, c'est pas très très loin. Voilà. Allons-y, vamos, c'est facile. Si la foi l'avait conduit vers le pays promis, la peur le conduit vers l'Égypte. Combien de fois nos peurs peuvent nous conduire également vers des chemins égyptiens, des chemins qui semblent logiques au premier abord, des chemins faciles, mais des chemins non conduits par la foi, loin de Bethel, loin de la maison de Dieu, loin de l'autel, loin des prières. Depuis la chute d'Adam et Ève, le péché a rendu plus difficile la vie de couple. L'un veut dominer sur l'autre. L'autre oublie la Saint-Valentin. Alors, bon, ça, c'est moins grave. Mais le péché peut malheureusement s'insinuer dans la vie de couple et pousser des couples à s'éloigner du chemin de Dieu. On le voit ici, parti en Égypte sur la base d'un raisonnement humain, conduit par la peur, Abraham poursuit sa route sur la même route, sur la même logique. Sa peur va alors se transformer en anxiété, en angoisse, en panique. Alors, quelle est la différence entre la peur et l'anxiété ? Il y a quelque chose, ces deux sentiments sont parfaitement naturels. La peur, un danger nous menace, l'amygdale travaille, et forcément, effectivement, on a ce détecteur de fumée qui nous annonce effectivement qu'il faut faire attention. Mais l'anxiété, c'est autre chose. Là, on n'a pas forcément un danger, hein, mais on a quand même ce sentiment qui nous habite. Et donc c'est plutôt ça l'anxiété. On est plutôt dans cette situation-là. Quand on commence sur la voie de l'incrédulité et de la peur, il ne faut pas s'attendre à ce qu'en cours de route, on se ressaisisse facilement. Le chemin de l'incrédulité et de la logique humaine sans Dieu, c'est une pente qu'on descend à ski. Plus on descend, plus on prend de la vitesse. Et plus on glisse vers des décisions absurdes, incohérentes avec la foi. Et c'est compliqué quand on est sur cette pente de revenir en arrière, et surtout quand on est à ski. Oui, Abraham doute, Abraham redoute le pire, et la chute va arriver. Il échafaude un triste plan, basé sur la tromperie et la dissimulation, avec la complicité de son épouse. Son devoir était de protéger Sarai, mais il semble prêt à la compromettre pour se protéger lui-même. Abraham n'est jamais allé en Égypte. Est-ce que les Égyptiens étaient-ils plus méchants que les Cananéens ? Certainement pas. Mais il panique, il devient parano. Il en est sûr. Quand les Égyptiens verront Sarah, ils diront « c'est sa femme ». Et alors ils me tueront. « Dis que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Abraham suspecte un danger, alors oui, il se sent vulnérable parce qu'il est étranger, il sera étranger en Égypte. Alors oui, il était courant à l'époque que des hommes puissants, comme des rois, puissent prendre de force une épouse. On connaît tous l'histoire du roi David et du malheureux Uri, hein, qui sera mis à mort à cause de la beauté de son épouse. Mais la demande d'Abraham à Sarai exclut totalement la providence de Dieu. Quelle crise de foi ! Elle est au niveau zéro de l'échelle de Scoville. Attention, il ne l'a pas perdu sa foi. On ne perd pas la foi. Mais elle baisse en intensité. L'angoisse a anesthésié cette foi, devenue un poivron vert tout fade, qui le pousse à agir en excluant complètement de Dieu, hein, du scénario qui l'échafaude. Il est perdu, il a oublié l'appel, et le voilà à l'origine d'un mensonge et d'un plan qui conduit à la duplicité et à la dissimulation. Et la parole des dieux est sans équivoque à cet égard. Les lèvres mensongères, nous dit le Proverbe 12, verset 22, sont en horreur au Seigneur. Il se complaît en ceux qui pratiquent la vérité. Alors, il est facile de blâmer Abraham, mais qu'auriez-vous fait à la place de Sarai ? Impliquée dans cette ruse et ce mensonge, Sarai aurait dû s'opposer à la demande de son mari, qui était une tromperie et la marque d'un vrai manque de confiance en Dieu. Ce n'est pas facile pour une épouse de ne pas être la complice de son mari quand celui-ci prend un mauvais chemin et entre dans le mensonge pour se sortir des impasses dans lesquelles il s'y est mis. La meilleure aide que puisse être une épouse pour son mari est parfois de lui résister, si la voie qu'il prend est manifestement mauvaise. C'est vrai également dans l'autre sens. Alors, je n'ai pas mis le livre ici, hein, mais voilà un livre que j'ai lu il y a quelques années, qui est très très intéressant. Il s'appelle « Le silence d'Adam » de Larry Cloab. J'aurai l'occasion de le réutiliser à plusieurs reprises. En Éden, c'est Adam qui a silencieusement suivi Ève dans la désobéissance à Dieu. C'est intéressant de sonder parfois les silences de la Bible, et c'est ce que fait ici l'auteur. On dit souvent que Ève est coupable, Ève a été tentée, hein, mais qu'a fait Adam ? Il a été totalement passif, il n'a rien dit. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ensuite, quand Dieu reprend le couple, il reprend Adam. Ici, le raisonnement est le même. Le silence de Sarai est tout aussi coupable que les stratégies mensongères fomentées par Abraham. Oui, en tant que mari et épouse, nous sommes un, une seule chair. Mais jamais cela ne nous obligera à être un dans le péché et la désobéissance à Dieu. Il y a un domaine dans lequel l'unité du couple doit céder le pas à une unité plus forte. C'est l'unité de chacun avec Dieu. Partout où son mari la conduit dans des voies d'obéissance à Dieu, l'épouse doit le suivre. C'est ce que Sarai a fait lorsqu'elle a suivi Abraham, quand il a quitté son pays d'origine. Mais partout où son mari veut la mener dans la désobéissance à Dieu, l'épouse doit résister à son mari et tenter de la ramener à la raison. Si, contrairement à ce qu'Éphésiens 5 nous dit, le mari n'aime pas sa femme comme Christ a aimé l'Église, mais au contraire, s'il la compromet avec le péché, comme le fait ici Abraham, il ne peut pas y avoir de soumission. La soumission à un mari qui prône la compromission avec le mensonge et le péché entraînera inévitablement la chute du couple. Elle aurait dû réagir, elle aurait dû résister. Quelle déchéance pour ce couple, après avoir connu Bethel, la maison de Dieu, de se retrouver ensuite dans la maison du Pharaon. On va lire justement la suite du passage.
Des gens de la cour du Pharaon la remarquèrent et la vantèrent à leur maître, de sorte qu'elle fut enlevée et en chèvres, des bovins, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel infligea de grands maux au Pharaon et aux gens de sa maison, à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon convoqua Abraham et lui dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme? Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur? À cause de cela, j'en ai fait ma femme. Maintenant, voilà ta femme, reprends-la et va-t'en. » Et le Pharaon chargea ses gens de les reconduire avec sa femme et avec tout ce qu'il possédait.
Le prince de ce monde ne demande pas mieux que de favoriser ceux qui retournent sur son terrain. De ce côté-là, Abraham est comblé grâce à son mensonge. Le voilà riche, en biquette, de toutes sortes. Et il faut rappeler qu'à cette époque, la valeur d'un homme, sa réussite, se mesure bien évidemment à la taille de son troupeau. Donc là, Abraham, c'est le grand luxe. Le voilà bien traité par le monde. Et toutes ses richesses lui font oublier son appel, sa femme, sa joie en Dieu et sa communion avec lui. Pas d'hôtel en Égypte, pas de témoignage vivant, pas de service efficace. Il reçoit des honneurs et des richesses, mais cela met en évidence sa servitude et rappelle le prix payé. Il a vendu sa femme pour des troupeaux. Quel déshonneur. Si après une sécheresse spirituelle, nous décidons de quitter la présence de Dieu, c'est déjà grave. Mais si en plus, nous acceptons du monde des avantages qui nous confortent dans notre péché, l'ennemi saura en échange nous ravir notre dignité et de croyants et de témoins en Christ. Mieux vaut être pauvre et libre avec Christ que riche et esclave sans lui. Abraham est bien traité, certes, mais ce qu'il va découvrir cependant avec le temps, c'est que les cadeaux et les avantages que l'on reçoit dans le mensonge ne peuvent jamais être comptés comme des bénédictions de Dieu. Parmi les servantes qu'Abraham reçoit, il y a une certaine Agar. On le verra dans Genèse 16, 1 à 4, Agar qui sera pour Abraham et Sarai un piège. Il se peut que pour un moment, la voie du mensonge semble être une voie qui procure un certain nombre d'avantages. Mais on ne doit pas se tromper, à long terme, ça ne sera pas le cas. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera plus tard. Abraham a voulu tromper Pharaon en lui faisant croire que Sarai était sa femme. Pharaon l'a béni pour cela. Mais les bénédictions de Pharaon deviendront plus tard une source future d'égarement pour ce couple. Au verset 15, le piège se referme donc. Pharaon a donc pris Sarai pour femme. On ne peut pas imaginer pire situation. Ça va être compliqué pour Abraham de la retrouver. Il ne peut s'en prendre qu'à lui. C'est sa ruse qui a mis sa femme dans cette situation ubuesque. Ce n'est pas rare que quand on use de mensonges, on se retrouve finalement dans un problème plus grand. Le mensonge, c'est comme un filet ou une toile d'araignée dans lequel on se trouve pris au piège Et plus celui qui y est pris se débat, plus on se retrouve encore plus lié, encore plus entravé, encore plus enchaîné, jusqu'au point de se retrouver totalement piégé. Si ce n'était pas l'intervention souveraine de Dieu, pour le sortir de là, l'histoire d'Abraham se serait arrêtée ici en Égypte. Car c'est là que des plaies tombent sur le pauvre Pharaon et sa maison. Il n'était pourtant pas coupable envers Abraham, c'est Abraham qui l'avait trompé, mais il était envers Dieu qui le frappe. Si Dieu envoie ses fléaux, attention, ce n'est nullement pour prendre parti pour Abraham. Si Dieu agit de la sorte, c'est par pure grâce, par pure fidélité à l'appel qu'il a adressé à son serviteur. Aujourd'hui, c'est pareil pour nous. Si nous sommes l'objet de la faveur de Dieu, ce n'est nullement à cause de nos mérites. Dieu s'est révélé ici au Pharaon. Il lui a montré qu'il ne devait causer aucun tort à cet homme, car il était son élu. Mais il faut le dire, Abraham aurait pu être un témoin d'une autre nature, un témoin du Dieu de vérité pour Pharaon. Si les chrétiens se compromettent, le monde ne les adopte pas pour autant. Nous ne sommes pas vraiment estimés du monde en descendant vers lui, et c'est une grâce de Dieu si un jour ou l'autre, le monde nous met dehors, si nous nous conformons un peu trop à lui. Mais quel déshonneur pour un croyant lorsque le monde le chasse, lorsque le monde lui fait des blâmes. Quel contraste entre ce va-t'en du verset 1 de Genèse 12 et ce va-t'en de Pharaon. Le premier était l'appel du Dieu de gloire. Celui-là, par contre, ce va-t'en, c'est plutôt un blâme. Alors s'il y a une chose avec laquelle on a du mal en tant que chrétien, mais je pense que beaucoup de monde aussi a du mal avec ça, c'est le blâme et la réprimande. C'est pas très agréable de se prendre un blâme en pleine figure, ça fait mal. Alors ça fait surtout mal à notre estime de soi, à notre orgueil. S'il nous faut des épreuves pour avancer dans la foi, il nous faut parfois des réprimandes, quand nous refusons de comprendre ces épreuves. Ainsi nous dit le livre des Proverbes dans la version Louis II, « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié tenue cachée. » Proverbe 27, verset 5. « Celui qui hait la réprimande est stupide, » nous dit Proverbe 12, verset 1. « Mais celui qui l'écoute, devient intelligent. » Proverbe 15, verset 32. Sommes-nous réceptifs aux avertissements que nos frères et sœurs dans la foi peuvent nous faire ? Où les trouvons-nous déplacés ? De là dépend parfois notre croissance et notre avenir dans la foi. Alors, avant de venir me blâmer à la fin du culte, il faut faire quelques distinctions qui me semblent importantes. Tout d'abord, il faut bien distinguer le blâme, la réprimande, l'avertissement, tout ça c'est un peu la même chose, et l'accusation, le reproche. L'accusateur va user de reproches et de mensonges pour chercher à culpabiliser l'autre. Celui qui, au contraire, réprimande son frère, il est factuel. Il dit la vérité. Il cherche à relever. Pas tout le temps, mais parfois, c'est le cas. Une fois n'est pas coutume, on peut s'inspirer de Pharaon. Sur quoi porte la réprimande ? Sur quoi porte le blâme du Pharaon ? Fait à Abraham. Pharaon réprimande sur les faits. Il ne fait que lui poser des questions. Il cherche à comprendre les motivations qui ont poussé Abraham à agir de la sorte. Il lui montre à quel point ses mensonges ont été nuisibles pour lui. Oui, Pharaon a commis une faute envers Abraham et Sarai. Mais si Abraham avait été droit et vrai, honnête, cela ne se serait pas produit. On peut donc s'inspirer de Pharaon s'il faut un jour invertir un frère ou une sœur dans la foi, si celui-ci agit de la sorte, se compromet ou compromet sa famille. On peut aussi s'inspirer d'Abraham. Enfin, j'ose dire, pour ce qu'on doit dire face à un rappel à l'ordre. Alors justement, que répond Abraham au blâme du Pharaon ? C'est ça, rien du tout. Il a bien raison de rien dire. Face au péché, nous n'avons rien à dire. Toute justification ne ferait qu'aggraver notre culpabilité. Le seul qui puisse nous justifier, c'est Dieu. Il peut le faire parce que Christ a pris la sentence, la condamnation que nous vaut notre péché. David le dit dans le psaume 51, lorsqu'il revient à Dieu après la réprimande de Nathan sur son adultère, doublé d'un meurtre. « Envers toi seul j'ai péché, j'ai fait ce qui te déplaisait, de sorte que tu seras juste dans ta parole, sans reproche dans ton jugement. » Psaume 51, verset 6. La plus grande faute qu'Abraham a commise n'est pas contre Pharaon, mais contre Dieu. Abraham apprend ici que les difficultés auxquelles il doit faire face, la peur et le mensonge ne sont jamais des voies qu'il faut suivre. Abraham est donc rappelé de l'Égypte par la grâce de Dieu. Abraham ne le savait pas, mais il était enchaîné. Sa situation était même pire que le peuple qui, quelques années plus tard, était esclave et souffrait finalement de cette situation-là. Ce n'est pas le cas ici d'Abraham. Il profitait des faveurs et des richesses de l'Égypte et il pouvait rester là encore longtemps. Heureusement, Dieu le ramène à lui. Dieu le ramène à la terre promise. Maintenant, Abraham va remonter, sortir de l'iniquité et cheminer vers la restauration. Le séjour en Égypte laissera cependant des traces. Ses richesses acquises dans le monde seront bientôt une source de conflit. On le verra un petit peu plus tard avec son neveu. Cette servante égyptienne Agar qui monte avec lui, voilà, là aussi un piège. Et bien évidemment, il a été ici un contre-modèle pour sa famille. Cette semence ramenée d'Égypte, il en récoltera les fruits pourris un jour. Le péché laisse des traces, d'où cet avertissement pour lui et pour nous. Néanmoins, les traites successives le ramèneront à Bethel. Home sweet home. Est-ce que le temps passé en Égypte a été du temps perdu? Je ne sais pas. Mais grâce à Dieu, en tout cas, on voit ici sa patience à l'égard de son serviteur, son amour. Il a permis à Abraham de retrouver l'intensité de sa foi originelle. Et il le ramène au point de départ. C'est un encouragement pour nous, quand nous aussi nous traversons des moments d'égarement, de savoir que Dieu peut nous restaurer, nous ramener au point de départ. Rebrousser chemin et reprendre sa place devant Dieu, c'est en tout temps une chose pénible à réaliser. Mais si nous le faisons avec courage et humiliation, nous pouvons compter sur le secours de Dieu. C'est son désir de nous faire revenir à la grandeur de notre appel et de nos privilèges. Il nous restaure de manière à exalter les richesses de sa grâce. Puis il sollicite notre vigilance pour que nous nous maintenions dans une voie de sanctification et de progrès dans la foi. Si Abraham mentira à nouveau, on en reparlera, on peut quand même dire qu'il sera plus résilient, car jamais plus il ne retournera en Égypte. Il se relève non pas plus fort, mais plus vigilant, plus conscient de son extrême dépendance à Dieu. La preuve, et on le lit ici. D'étape en étape, il retourne du Négev jusqu'à Bethel, au lieu où il avait auparavant établi son campement, entre Bethel et Haï, c'est-à-dire à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé. Et il y pria l'Éternel. Certaines traductions disent même invoquer. Invoquer, c'est un mot peut-être encore plus fort, car c'est vraiment crier, appeler à l'aide, avec des prières. Quel cheminement! Se relever non pas en se considérant plus fort, mais au contraire en appelant à l'aide. C'est ça la véritable résilience spirituelle. Alors, que conclure au terme de ce séjour en Égypte? J'y arrive pas, tant pis. Alors, premièrement, on doit se méfier de nos impressions et de tout ce que nous nous disons à nous-mêmes, de tous les scénarios que nous pouvons échafauder dans notre tête. C'est magique. Douter puis redouter, voilà souvent le moyen qu'utilise le diable depuis le jardin d'Éden pour nous amener dans des voies de mensonge et de désobéissance. La seconde conclusion est que nous devons être des gardiens les uns pour les autres. La femme pour son mari, le mari pour sa femme, les frères et sœurs entre eux. N'hésitons pas à parler le langage de la vérité. Et si nous voyons justement quelqu'un se diriger vers la voie du mensonge, n'hésitons pas justement à le reprendre. La troisième conclusion est que nous devons accepter parfois d'être repris, parfois d'être réprimandé si nous avons fauté. La réprimande de Dieu se fait par sa parole, mais elle se fait aussi parfois par nos proches et parfois même par des incroyants comme Pharaon. Qui se rebiffe contre la réprimande de Dieu n'ira pas loin dans sa marche avec lui. Dieu veut nous restaurer, Dieu veut nous ramener dans sa maison. Il veut nous rendre plus résilients quand le moment de l'épreuve viendra à nouveau. Prions.
Seigneur, affûte notre foi.